Une parole qui nous parle sur les résolutions. À des moments dans la vie, il y a des choix à faire, vous le savez. Combien de fois avez-vous dû faire des choix? Une fois, 10 fois? Nous avons des choix à faire. Il faut les faire d'une manière intelligente. Job chapitre 22, verset 21 à verset 28. Ce sont des textes qui sont précieux, vraiment précieux, parce qu'il nous indique l'état d'esprit dans lequel nous pouvons prendre ces résolutions. Jésus en parle régulièrement en plus. Job chapitre 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras aussi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Et tout le monde dit Amen. Vous le croyez cela? Alors nous allons voir une dame qui a eu vraiment cette attitude. C'est l'arrière-grand-mère de David. Vous savez qui c'est? Oui, c'est ça. C'est Ruth. Dans le livre de Ruth, le livre de Ruth, c'est le premier livre dans la Bible qui porte le nom d'une femme. Ruth, ça veut dire amitié. C'est un beau prénom, Ruth. C'est un très joli prénom. Ça s'est passé pendant la période des juges, une époque où tout le monde faisait ce qui lui semblait bon. C'est une époque terrible, grave, et c'est exactement ce qui se passe dans notre nation. Chacun fait ce qui lui plaît. Personne n'obéit. Personne n'écoute, les gens font ce qu'ils veulent, vous le voyez par le biais des actualités, les gens appellent le mal bien, mais de plus en plus. Et dans ces temps d'apostasie, dans ces temps de désapprobation divine, il y a des personnes qui ont vraiment eu la crainte de Dieu, malgré les choix qui n'était pas bon. Et au début de ce livre, je vous encourage cette semaine à lire ce chapitre. J'ai pensé que c'était peut-être mieux de prendre la Sainte Cène après. Pourquoi? Eh bien pour qu'on puisse saisir une grâce particulière qui manque à quelqu'un ou qui nous manque, ou plusieurs faveurs. Dans ce temps, vous voyez, Ruth, vous y êtes, je pense, au chapitre 1er, au verset 1er, du temps des juges. Vraiment, ça allait mal. Ça allait mal, alors c'est pas étonnant ce qui suit, il y eut une famine. Une famine, ça indique combien spirituellement nous avons besoin de beaucoup de nourriture. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Moab, je vous le dis pour ceux qui ne connaissent pas, les Moabites, les Ammonites, c'est vraiment terrible. Ce sont les descendants d'un fruit de l'inceste. Vous savez, Lot, quand il a fui, Sodome, c'était un homme qui, malgré le fait qu'il était chrétien, enfin croyant, n'était pas tout à fait en communion avec Dieu. Et ses filles avaient pris vraiment les travers de l'immoralité qu'il y avait dans cette ville, c'est pour ça que Dieu l'a détruite. Ce sont des choses, l'immoralité, l'adultère, la fornication, l'homosexualité, tout ça, ce sont des choses qui amènent la désapprobation divine. C'est à cause de ces choses, dit l'apôtre Paul, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est pour la même unique raison que Jésus va enlever l'Église et amener la colère de Dieu sur la terre. Dans la période des juges, c'était en vrac, tout le monde était en vrac. Et donc, Élimélec, pourtant, ça veut dire « Dieu est mon roi ». Mais je peux vous dire, ce n'est pas parce qu'on porte un nom chrétien que l'on obéit à Dieu. Élimélec, il y avait de la famine. C'est vrai que quand il y a de la famine, on peut faire des erreurs, de grosses erreurs, ça a duré 10 ans. Donc il est parti du pays de Moab, il va dans un pays vraiment qui reflète la chair. Dans la Bible, quand vous voyez, si vous regardez maintenant, à partir d'aujourd'hui, les Moabites, ce qu'ils ont fait, ou les Ammonites, c'est tout le temps le résultat des œuvres de la chair. Et la chair, ça sert à rien. Donc, ils fuient, le résultat va être catastrophique, puisque cet homme va mourir, ses deux fils vont mourir. Et au bout de 10 ans, donc, sa femme, Naomi, que ça veut dire beauté. Donc, cette femme va se retrouver seule au bout de 10 ans avec ses deux belles filles qui sont des Moabites. Vraiment, aux yeux du peuple d'Israël, c'est vraiment des étrangères. Des femmes, alors je n'aime pas trop utiliser ce mot, mais quand même, il y a la malédiction sur ce peuple tout le long de la Bible. Il y a une malédiction. Et le choix va se présenter, un choix. Vous savez, cette fille, elle a fait un choix. Je ne sais pas quel âge elle avait. C'était deux belles filles, donc. Alors, on peut lire peut-être... On va lire le verset 12. Non, verset 11. C'est bien, il faudrait lire... Il n'y a que 4 chapitres. On pourrait lire ça, ça remplacerait la prédication. Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. » Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Vous voyez, toutes les deux ont fait la même chose. Orpa, ça veut dire le coup. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait bon, ça veut dire le coup. Baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Vous rappelez ce qu'on a lu dans Job. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » On voit dans le cœur de ces deux femmes qu'il y a une bien sûr, elle était libre quand même. On ne reparle plus jamais de cette femme. Ruth, on en parle depuis 2000 ans. Ce n'est pas étonnant. Et cette femme a compris que le Dieu de Naomi était vraiment Dieu. Vous savez, quand on accepte Jésus, mes frères et sœurs, quand on accepte Jésus, au début, c'est pas toujours très clair. On a fait une expérience... On a accepté Jésus comme sauveur, mais on n'a pas tout compris. Vous êtes d'accord avec moi quand même, soyez honnêtes. Quand on prend le baptême, on ne peut pas dire qu'on a absolument tout compris. On comprend bien qu'à partir de maintenant, on fait partie d'un corps. Vous êtes le corps de Christ. Ça c'est bien. Les chrétiens qui n'ont pas encore compris qu'ils font partie du corps de Christ ont vraiment, vraiment besoin de demander à Dieu de l'aide. Parce que quand on devient chrétien, quand même, on fait partie d'un corps. Si vous vivez votre vie spirituelle d'une manière vraiment individualiste, vous avez besoin que Dieu se révèle. Je ne sais pas exactement comment était Ruth, mais Ruth a compris que Naomi était une femme qui faisait partie du peuple de Dieu. Je ne sais pas si elle avait compris, par exemple, tout le thème du livre, la loi du rachat par un proche parent. Oui, est-ce qu'elle avait compris ça? Je pense pas, vous voyez, c'est sûr. Mais il y avait des lois dans l'Ancien Testament. Quand vous entrez dans le corps de Christ, il y a des principes, des lois bénies. J'aime pas le mot loi, parce que moi je préfère dire que ce sont des commandements bénis. Vous comprenez ma pensée? Tous les commandements de Dieu sont des invitations à la communion en vérité. Il y avait une loi, la loi du proche-parent dans le livre. Si vous avez un thème, c'est le rachat du proche-parent. Donc, elle ne sait pas que Boaz, de la famille de Naomi, possède une loi. Pourquoi je vous dis ça, la loi du rachat? Vous allez comprendre. C'est parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez peut-être pas encore. Mais au fur et à mesure, vous obéirez, vous comprendrez le plan de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne comprennent rien au plan de Dieu. Vous voyez la loi du rachat? La loi du rachat, il y a des chrétiens même qui ne comprennent pas cette loi du rachat. Mais vous savez, il y a des lois que Dieu avait utilisées pour protéger le peuple d'Israël, pour que l'héritage... des Hébreux, l'héritage de Dieu, n'aille pas des étrangers. Alors ça n'a rien à voir avec l'immigration, tout ça, mais c'est pour vous dire qu'il faut protéger l'Église. Vous êtes d'accord de protéger l'Église? Peut-être que vous n'y pensez pas, mais je voudrais que cette prédication vous aide à comprendre certaines choses. Donc quand Ruth choisit de suivre Naomi, sa belle-mère, elle accepte de se soumettre à la loi de Dieu. Dieu a un plan pour cette jeune femme. Vous savez, c'est une Moabite. Naomi, Elimelec a fait des mauvais choix. Ça a piétiné pendant 10 ans. Vous savez qu'on peut faire des choix qui vont nous coûter cher. Est-ce que vous le savez? Et heureusement que Dieu est miséricordieux. Heureusement que Dieu est plein de grâce et que Dieu peut changer le mal en bien. D'ailleurs, moi, le titre théologique, c'est la loi du rachat. Moi, j'ai mis dans ma Bible, comme titre, j'en ai mis plusieurs. Mais j'ai mis Dieu change le mal en bien. Et c'est ce qu'on va voir. Cette femme, elle comprend qu'il y a des lois de Dieu. Elle veut la loi. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Bon. Son heure est venue. J'aimerais que vous compreniez d'abord cette première pensée dans la prédication. Il y a un temps pour tout. Vous savez, il y a des heures avec Dieu. Jusqu'au moment où, jusque le temps fut accompli. On voit quand vous lisez la Bible, ça ressort lorsque le temps fut accompli, jusqu'au temps où Dieu l'éprouva pour. Son heure était venue, peut-être que pour quelqu'un. Écoutez bien, frères et sœurs, votre heure est venue de choisir vraiment la parole de Dieu, la loi de Dieu, l'amour de Dieu. Vous savez, on peut être chrétien et faire sa propre volonté, croyez-moi. On peut être pasteur et faire sa propre volonté, tout en étant pasteur d'une église. Je sais de quoi je parle, j'ai dû le faire plusieurs fois sûrement. Elle fait un choix de s'attacher à sa belle-mère. C'est bien de s'attacher à sa belle-mère, non? Vous aimez votre belle-mère? En principe, il n'y a jamais d'amen quand je dis ça, jamais. En tous les cas, elle est déterminée. Elle est déterminée, regardez, on a lu le verset 16? Oui, on l'a lu. Chapitre 2, regardez au chapitre 2, verset 2. C'est important cette détermination. Je vous rappelle que tous les gens, hommes ou femmes, que Dieu a utilisés dans la Bible, est tout le temps soucieux du travail. C'est bizarre ça. Il y a des gens qui sont feignants. Vous savez qu'il y a des gens feignants? Non. Cette femme, regardez. Ruth, chapitre 2, verset 2. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » On voit déjà qu'elle a compris ce qu'était la grâce de Dieu. Elle l'a vu dans la vie de sa belle-mère. Vous savez, c'est important, mes frères et sœurs, que nous rendions un bon témoignage. Que les gens dans notre famille, gendre ou belle-fille, belle-mère ou beau-père, etc., voient dans nos vies la grâce de Dieu. Elle a déjà compris. Pourtant, elle a vécu à Moab, dans un pays maudit. Mais ce matin, je lisais l'évangile de Luc, quand on voit des hommes qui ont été à Bethsaïda, par exemple. Cette ville, elle était maudite. Et pourtant, il y a quelqu'un, un jour, que Dieu a sorti de cette ville pour le bénir. Dieu est béni. Vous le croyez que Dieu bénit? C'est pas parce que ça va mal que Dieu ne vous bénira pas. Croyez-moi, croyez-moi. Elle est déterminée. À tes résolutions répondra le succès. Elle écoute. Regardez au verset 8. C'est important que vous, cette semaine, dans votre culte personnel, vous prenez ce livre, c'est pas beaucoup, il y a 4 chapitres, et vous regardez tout ce qu'on a demandé à cette femme. Parce qu'il faut comprendre pourquoi elle est dans la grâce de Dieu. Elle écoute. Regardez, Ruth, là c'est plus sa belle-mère, là c'est Boaz. Elle sait pas qui c'est vraiment encore. Comme par hasard, elle s'est retrouvée dans sa propriété. Verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille. Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas et reste, voyez, avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne. Voyez ce qui. Elle va le faire. Elle va le faire. Écoute ma fille. Regarde. Va. C'est bien de voir tout ce qui a été demandé à cette jeune femme, qui était vraiment une étrangère. Peut-être qu'encore, vous n'êtes pas très familiarisé avec le corps de Christ, mais moi, je peux vous dire que vous gagnerez du temps si vous écoutez les conseils que Dieu donne. Croyez-moi, vous gagnerez du temps. Et il y en a un qui est spécialisé pour nous faire perdre du temps. Plusieurs choses vont lui être demandées, soit par Boaz, soit par sa belle-mère. Elle va le faire. Alors, par exemple, au verset... On va lire le chapitre 3, tiens. On va d'abord, avant de continuer cette prédication, on va lire un chapitre. Et je voudrais que vous, parce que certains lisent la Bible, je le vois, je le sais, ils lisent la Bible pour lire la Bible. Ils ne s'arrêtent pas, ils ne méditent pas. La Bible n'a jamais dit « heureux celui qui lit la Bible ». La Bible dit « heureux celui qui lit et qui médite ». Alors on va lire un chapitre. Ça ne vous gêne pas qu'on lise un chapitre en entier. Quelqu'un un jour m'avait dit « Monsieur Hugo, on a lu trop de textes ».
Moi, je crois qu'un pasteur, il peut prêcher trop longtemps. Mais je ne suis pas sûr qu'un pasteur puisse lire un texte trop long. Ruth 3, verset 1er. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » C'est bien quand on parle comme ça. C'est Dieu qui parle. Regardez, quand même, on pourrait rester toute l'après-midi, tout le matin là-dessus. « Je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent ? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oint-toi. Je le relis. Regardez bien. Lave-toi et oint-toi. Puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dit, bon, il y a des coutumes que ce n'est pas la peine de les appliquer aujourd'hui. Hein. Non, mais je vous le dis parce que les jeunes filles, faites-moi confiance quand même. Il te lira lui-même ce que tu dois faire. Elle lui répondit, je ferai ce qui me plaît. Du temps des juges, à cette époque-là, tout le monde faisait ce qui lui plaisait. Je ferai tout ce que tu as dit. Pourtant, je peux vous dire qu'elle n'était peut-être pas en état de tout comprendre. Croyez-moi. Je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Elle a commencé à comprendre. Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » N'oubliez pas que c'est une étrangère qui était vouée à l'enfer et à la malédiction. Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre. Plus proche que moi, on va en parler de l'autre. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui paie pas d'en user envers toi, j'en userai, moi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Oui, elle écoute, elle fait qu'écouter cette femme. Et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi. » Et elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge. Je crois que ça correspond à 70 litres. Qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi et dit, « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Regardez bien cette dernière parole, franchement quand même. Et Naomi dit, sois tranquille, ma fille. Je le relis parce que franchement, il faut le relire. Sois tranquille, ma fille. C'est pour vous, frères et sœurs. Jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera pas de repos qu'il ait terminé cette affaire. Vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire. Voyez, dans ce chapitre, il est dit « Lave-toi, oint-toi, donne-toi ». Eh bien, c'est le titre que j'ai donné à ma prédication. Je ne savais pas quel titre donner parce qu'il y a vraiment plusieurs titres. J'ai donné ce titre « Lave-toi, oint-toi, donne-toi ». Pourquoi ? Parce que ce chapitre nous montre bien, c'est pour ça que j'ai pris celui-là, que Dieu s'occupe de notre vie. Est-ce que vous comprenez ? On parle de Ruth, ben c'est clair que ce livre est merveilleux, qui fait pleurer de joie et qu'on a envie de le relire. Mais mes frères et sœurs, ce chapitre, Il veut te dire, le Seigneur s'occupera de toi si tu fais ce qu'il te demande. Au travers de Jean, et elle a écouté sa belle-mère, lave-toi, oint-toi, donne-toi. Je crois que c'est trois verbes, mais ou ces trois exhortations, ou ces trois commandements, j'en sais rien, ou les invitations. Voilà, ces trois invitations. Vous n'êtes pas content de savoir que Dieu va s'occuper de notre vie dans le temps des juges où chacun fait n'importe quoi, où dans les églises on fait n'importe quoi, les gens, parce qu'on peut dire des pécheurs, c'est facile de dire oui, les pécheurs, ils ne savent pas distinguer la main droite de la main gauche, mais dans l'église, est-ce que nous avons ce discernement capable de discerner le bien du mal? Quand j'entends ce que j'entends, je peux vous dire qu'on ferait bien d'écouter tous les conseils de Dieu. Et si le Seigneur, vous voyez ces trois verbes que j'ai relevés, si le Seigneur ce matin te disait la même chose, lave-toi, oint-toi, donne-toi, mes frères et sœurs, vous pouvez être sûrs que Dieu va s'occuper de vous. Il va s'occuper de vous. Quelqu'un va s'occuper de toi, c'est ce qu'a dit Naomi. Sois tranquille, ma fille. Il va s'occuper de toi. Bien sûr que notre Boaz à nous, c'est le Seigneur Jésus, vous l'avez compris. Le Seigneur, il va s'occuper de toi. Vous le croyez que Jésus est vivant, qu'il est mort, et qu'il est ressuscité des morts, et que la mort ne peut plus l'atteindre, et qu'il est assis sur son trône, et qu'il règne, et qu'il a envoyé le Saint-Esprit promis, et que le Saint-Esprit, normalement, si on a le Saint-Esprit, il doit nous conduire dans toute la vérité. Vous le croyez, frères et sœurs? Je vous enverrai un autre consolateur. Moi, franchement, moi, je lis la Bible, vous en doutez. Et quand je vois que Dieu a voulu que le Saint-Esprit s'appelle le Consolateur, moi je vous que ça m'émeut beaucoup. Vous ne croyez pas? Parce qu'on a besoin de consolation avec toutes les casseroles qu'on se traîne, c'est quand même bien de savoir que le Seigneur s'appelle aussi le Consolateur. Croyez-moi. Le Seigneur, il a tout accompli. Est-ce que vous voulez rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées pour vous, même si nous sommes dans le temps des juges? Est-ce que vous le... Il y a des chrétiens qui se sont mis en mode, comment on appelle ça, roue libre. Le Seigneur va revenir... Le Seigneur va revenir. Moi, je crois que Jésus va revenir. Vraiment, je crois que Jésus va revenir. Mais ce n'est pas une raison pour dire, bon, mais on se met en roue libre, on attend qu'il revienne. Non, il y a des œuvres que Dieu a préparées. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Répondez au Seigneur, ne répondez pas à haute voix, ce n'est pas utile. Il y a des choses qui ne regardent que Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées à l'avance? Répondez au Seigneur. Il le voit de suite quand on répond. Parce que je peux vous dire, je l'ai dit tout à l'heure, combien de chrétiens font leur volonté? Ce n'est pas parce que vous êtes ici, et moi le premier, que nous faisons la volonté de Dieu. Mais ça, j'espère qu'il n'y a pas besoin d'un discernement supérieur pour comprendre cela. Je peux être dans l'église, chanter, prendre la Sainte-Cène et faire ma propre volonté. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous attendez au fait? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez... une direction de Dieu, et cette direction de Dieu, je le répète, dépendra des choix que vous allez faire. Quand nous avons écouté l'Évangile, certains rejettent l'Évangile et s'endurcissent, ils disent non, tout ça c'est des âneries, c'est des bêtises, c'est ridicule, c'est l'opium du peuple, comme on dit certains, et puis il y a certains qui sont convaincus de péché, paf, la première étape, c'est la repentance. Premier choix à faire, repentez-vous, ben oui je me repens, et avec joie. Deuxième étape, repentez-vous et convertissez-vous. Là, vous savez, quand on veut prendre le baptême, il ne faut pas qu'il y ait que la repentance. C'est un choix qui est... C'est merveilleux la repentance, parce que ça nous ouvre la porte, mais il ne faut pas passer par la porte. Il faut passer par la porte et marcher sur le chemin. Parce que la porte, on a vite fait de faire un demi-tour. Troisième étape, c'est la nouvelle naissance. Quelqu'un qui se repent et qui se convertit, puisqu'on est dans la loi du rachat, c'est un livre sur le rachat, je peux en parler. Quelqu'un qui se repent et qui se convertit, normalement, va naître de nouveau. Il va être une nouvelle créature. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, j'ai pris le baptême, mais moi, ça n'a rien changé. J'ai entendu ça. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Rien. Ah, d'accord. Moi, il me semble que quand on passe des ténèbres à la lumière, moi, je trouve qu'il y a quand même un petit changement. Quand on a le diable pour père et que tout d'un coup, le Seigneur Jésus devient notre Père éternel, moi je trouve que ça change quand même de famille. Vous ne trouvez pas? Et si à votre conversion, il ne s'est pas passé grand-chose, c'est que vous ne vous êtes pas converti. Vous avez changé d'église ou de religion, mais vous n'avez pas changé de cœur. Il y a des choix. Le quatrième choix, c'est de le servir. Tiens donc, est-ce que c'est important pour vous de servir Dieu? Je ne dis pas qu'un service qui se voit de tout le monde, mais est-ce que vous servez le Seigneur? Est-ce que vous servez Dieu dans un domaine ou dans un autre? C'est important. Le cinquième choix, ce sera peut-être une nouvelle orientation. Comme vous voyez, Naomi qui est arrivée à un moment où il fallait qu'elle refasse un choix dans sa vie. Elle a appris, bien sûr qu'elle a été intéressée, elle a appris que tout d'un coup dans son pays, il y avait du pain. Alors elle est retournée à Bethléem. Bethléem, ça veut dire maison du pain. Elle est retournée à Bethléem. Bon, mais c'est sûr qu'après 10 ans, quand on perd son mari et ses deux fils, je pense que ça doit être quand même une drôle d'épreuve. Elle est là dans la souffrance. D'ailleurs, elle dit « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Ce n'est pas le Tout-Puissant qui l'a rempli d'amertume, c'est elle. Le Seigneur ne nous remplit pas d'amertume. C'est une façon de parler. Quand il est dit que Dieu a livré les hommes au mal, ce n'est pas Dieu qui livre les hommes au mal. C'est les hommes qui, en choisissant le mal, se mettent incontournablement dans le mal. Vous le comprenez bien. Je le dis parce qu'il y a des chrétiens qui sont compliqués avec l'interprétation. Lave-toi. Lorsque l'on accepte Dieu, lorsque l'on accepte Jésus, il y a quand même une nouvelle naissance, mes frères et sœurs. Oui ou non? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Franchement, je le répète, parce que quand même, il y a plein de gens dans les églises qui ne sont pas nés de nouveau. Et en plus, il y en a même qui rentrent dans le ministère sans être nés de nouveau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de le bazar dans lequel les églises sont mises. Mes frères et sœurs, lave-toi. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Oint-toi. Vous voyez, il va se passer quelque chose. Elle va, je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette Moabite, elle va devenir une ancêtre de Jésus-Christ. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Oint-toi. L'huile parfumée dans l'Ancien Testament est toujours l'Église, l'image du Saint-Esprit. La vie de l'Esprit, c'est important pour vous, la vie du Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit nous conduire. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Mais aussi, Jésus a dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc si vous aimez le monde, vous allez avoir d'énormes difficultés à avoir une direction du Seigneur. Oint-toi, qu'est-ce que ça veut dire? Là, parce que oint-toi, oui. Ça veut dire quoi? L'onction, le Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu veut habiter dans ta maison, dans ton cœur. Le baptême, c'est quoi? J'accepte le Saint-Esprit. Oint-toi, c'est ça que ça veut dire. Dieu habitera dans ma maison, là, ici, dedans. C'est ça l'onction. Bien sûr que ça a des répercussions dans la vie, parce que quelqu'un qui a la paix, qu'est-ce qu'il fait, quelqu'un qui a la paix? Il la procure aux autres, c'est évident. Si vous êtes tout le temps énervé, qu'est-ce que vous allez procurer aux autres? Ben vous allez les agacer, oui ou non? Ben vous le savez tous, on le sait. Mes frères et sœurs, je le sais, si le Seigneur m'a mis à cœur cette prédication, c'est évident, c'est que dans le peuple de Dieu, beaucoup de gens font ce qui leur plaît. Vous savez, je l'ai déjà dit dans d'autres prédications, j'aime pas trop le dire, mais quand même c'est bien de le dire, mais j'aime pas le dire. Le premier commandement dans la Bible sataniste, c'est « fais ce qui te plaît ». J'aime pas dire ça, et pourtant c'est vrai. Que de chrétiens font leur propre volonté? Je ne sais pas si les prédications, c'est des moments comme celui-ci, ce moment où j'ai voulu qu'on prenne la Sainte Cène après, parce que je pense que c'était mieux. Est-ce que ces moments nous font tous prendre conscience qu'il y a une volonté de Dieu, un plan de Dieu qui va dépendre de certains choix? Vous avez vu, ces deux belles sœurs, elles se connaissaient peut-être depuis toute petite. Mais là, devant Naomi qui respirait quelque chose, malgré son amertume, parce qu'on peut être dans la souffrance et manifester la présence de Dieu. Oui, c'est vrai. Ce qu'il y a de dommage, c'est que quand on est charnel, on utilise la souffrance pour justifier certaines choses. Je ferai tout ce que tu as dit. On l'a lu, vous avez vu, hein? On le relit par souci. Now, Ruth 3, 5. Elle répondit, elle ne sait pas encore la loi du rachat, tout ça c'est compliqué pour elle. Vous savez, il y a des choses qui sont compliquées, mais vous pouvez faire confiance à Dieu. Dieu ne vous trompera jamais. Je ferai tout ce que tu as dit. Alléluia. Heureux êtes-vous si vous dites, je ferai ce que Seigneur tu me dis par ta parole, je le ferai. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ruth demande à Boaz, je suis sûr qu'elle n'a pas encore tout compris. D'ailleurs, la preuve, je vais vous l'expliquer peut-être. Ruth demande à Boaz d'exercer son droit de rachat. Mais il lui dit, d'accord, il y en a un autre. Alors bon, le thème du livre, c'est le rachat. L'autre, c'est Satan, pour nous. Son droit, il l'a acquis. Vous savez, bon là, je ne veux pas faire de la théologie, moi c'est quelque chose qui répond pas forcément à un besoin. Mais dans le cadre du livre, c'est bien quand même un peu d'en parler. Son droit, Satan l'a acquis en Éden, lorsque nos premiers parents ont désobéi. Vous savez ce qui s'est passé en Éden. Un couple, vous savez, Adam et Ève, leur défaut, c'est qu'ils se sont unis tous les deux face à la tentation. C'est terrible quand un couple ne sait pas s'entraider. Ils avaient à choisir. Ils ont eu à choisir un jour, comme on a des choix à faire. Il fallait qu'ils choisissent. Je résume parce que c'est simple. Entre la parole de Dieu et la parole de Satan. Vous vous rappelez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et bien sûr, la suggestion de Satan, c'était bien sûr des pleins d'intérêts, etc. Tu verras, si vous mangez de ce fruit, c'est Dieu, il vous a menti. Il n'a pas dit comme ça parce qu'il est plus rusé que ça. Mais vous serez comme des dieux, il vous prive de quelque chose, etc. Et ils ont fini par choisir la parole de Satan. Et à cause de cela, nous sommes devenus tous, par hérédité, des enfants de Satan. Et si vous n'êtes pas chrétien, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de neutralité. Vous ne pouvez pas dire, oh non, moi, tout ça, je ne me sens pas concerné. Moi, je suis neutre, je n'ai ni Satan, ni Dieu pour maître. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, votre maître, c'est Satan. Jésus va dire aux pharisiens qui connaissaient la parole, vous avez pour père le diable. Ça ne leur a pas plu beaucoup. Mais ils auraient pu dire, eh bien, éclaire-nous. Il y a certains qui l'ont fait. Vous savez, le diable a des droits par hérédité, on le sait pas. Vous vous rappelez comment vous étiez avant votre conversion? Vous pensiez à ces choses? Bien sûr que non. Mais Satan a des droits. Tant que nous n'avons pas été rachetés, c'est pour ça que Boaz lui dit, mais il y en a un autre. Alors on peut appeler Satan ce matin, l'autre, ouais, on peut le faire. Si vous mentez, si je mens, qui c'est mon père? C'est le diable. Ne vous mettez pas en tête que les petits mensonges, c'est pas grave. Si vous mentez, vous êtes l'ami du diable. Je ne sais pas comment il faut le dire. Je vous le dis sérieusement, mes frères et sœurs. Quand on doute vraiment, vous vous rappelez, on en a parlé du doute l'autre jour. Quand on doute vraiment, qu'est-ce qu'on finit par croire? Par douter de la parole de Dieu et on finit par choisir la parole de Satan, etc., etc. Satan représente l'autre qui a aussi un certain pouvoir. Est-ce que vous doutez de l'amour de Dieu ce matin? Ça, c'est une question que je peux poser. Est-ce que vous doutez de l'amour du Seigneur? Est-ce que vous lui faites confiance à votre Dieu? Sois tranquille, mon frère. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Je vous le dis comme si j'étais votre papa. Sois tranquille, ma fille, mon fils. Tu n'as peut-être pas tout compris sur la loi du rachat, mais sois tranquille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera pas de repos qu'il ait terminé cette affaire aujourd'hui. Boaz ne s'est pas donné du repos parce qu'il voulait absolument s'occuper de cette jeune femme. Mais j'en connais un qui ne s'est pas donné de repos. Quelqu'un l'a dit dans la prière ce matin. C'est Monsieur Fatah. Vous ne l'avez pas dit comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas donné du repos jusqu'à ce que notre âme soit sauvée. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce qu'il y a d'important dans ce livre aussi, c'est de comprendre quelque chose. Parce que quand elle lui dit « sois tranquille », ça veut dire qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Ce n'était pas à Ruth à défendre ses droits. Vous comprenez, ses nouveaux droits. C'était à Boaz. Mes frères et sœurs, vous connaissez la prédication de la croix, vous connaissez ce que la dernière parole que Jésus a prononcée en tant que fils de l'homme sur le bois de la croix. C'est quoi la dernière parole? Tout est accompli. Mes frères et sœurs, soyez tranquilles. Vous qui découvrez l'évangile, s'il y a des personnes qui ne sont pas encore baptisées, qui ne sont pas encore repenties par toutes ces étapes, soyez tranquilles, quelqu'un s'est occupé de vous. Je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rendez compte, même les anges nous ont gardés quand on se moquait de Dieu. Parce que moi je peux vous dire que j'étais un moqueur. Moi quand je lis que les anges sont des serviteurs de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, moi je vous assure que ça me touche. Oui, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Ruth, elle n'a pas tout compris, mais elle a écouté sa belle-mère qui lui dit « Laisse-le faire, il va s'en occuper, c'est pas à toi de t'en occuper, il va te défendre, il va s'occuper de l'autre, il va s'en occuper de l'autre. » La meilleure façon de se défendre, c'est de présenter le Seigneur Jésus-Christ tout le temps. Je ne sais pas comment vous vous débattez ou si vous êtes dans le repos, mais la meilleure façon de se défendre par rapport aux attaques de l'autre, mes frères et sœurs, c'est de remettre Christ devant nous. Seigneur, je remets tout entre tes mains aussi. Vous connaissez la bataille qui s'est livrée. Moi, cette semaine, j'ai relu les évangiles et j'étais plein de reconnaissance devant la façon dont le Seigneur a combattu à Gethsémané. Et au calvaire. Je vous rappelle quand même, pour ceux qui en douteraient, que Jésus-Christ, c'est Dieu, dépouillé de sa gloire. Et le diable, l'autre, il a vraiment tout fait. Tout fait. Même ses trois amis, ses trois meilleurs amis, se sont endormis dans le jardin de Gethsémané. Le diable, il a vraiment, vraiment tout fait pour que Jésus souffre à fond. Je ne sais pas si vous réalisez, mes frères et sœurs, combien c'est une bénédiction de prendre la Sainte Cène. Vous le croyez? Je voudrais que ça soit une faveur, vraiment. Je sais que pour beaucoup, c'est le cas. Mais je voudrais vraiment qu'on réalise qu'il nous dit ce matin, si Dieu m'a inspiré, sois tranquille. Il s'est occupé de tout au calvaire. Et si tu fais ce qu'il te demande, il s'occupera du reste. Croyez-moi. Alors l'autre, bien sûr, alors ce qu'il y a de bien dans cette histoire, c'est que l'autre, c'est-à-dire, bon, parce que Naomi avait vendu le terrain, d'Elimelech, etc., bon, je ne vais pas vous expliquer ça, mais en fait, il y a des moments, il faut faire attention de ne pas faire certaines erreurs pour ne pas perdre les choses. Vous savez qu'on peut perdre ce que Dieu nous donne? Bon, je ne vais pas tout expliquer, ça serait trop long. Mais mes frères et sœurs, il faut que vous vous souveniez d'une chose. Le diable, il a été vaincu au calvaire et il ne peut pas racheter. Il aurait pu racheter la terre, mais là, vous avez vu, je vais vous dire la suite, il ne peut pas racheter les âmes. Il n'y a que Jésus-Christ qui a le pouvoir de racheter les âmes. Que son nom soit béni. Alors on va lire juste ce qui nous intéresse. Bien sûr, vous savez qu'elle obtient le rachat par le biais de Boaz, qui a tout fait. Alors regardez bien, j'aimerais que vous lisiez ça. Je méditais ça hier après-midi, je cherchais dans l'Ancien Testament ce qui correspondait à la loi du rachat. Bon, c'est important qu'un pasteur quand même le comprenne. Ruth chapitre 4... Verset 7, on va lire le verset 5, pour vous expliquer que Satan ne peut pas racheter une âme, il n'y a que Jésus qui a le pouvoir de racheter des âmes. Ruth chapitre 4, on va lire à partir du verset 4, ouais, franchement. « J'ai cru devoir t'en informer et te dire, à qui est là en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple? Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. » Et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Il ne sait pas tout, le brave. Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Alors là. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, ah, je ne peux pas racheter pour mon compte. Crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, regardez bien, frères et sœurs, c'est des lois de Dieu, divines, qui nous parlent à nous en tant que rachat de Jésus-Christ. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquier pour ton compte, et il ôta son soulier. C'est bizarre, non? Alors, on va voir quelque chose que... Elle ne le savait pas, elle ne l'a pas fait. Regardez avec moi dans le Deutéronome, c'est un peu avant. Regardez bien. Ça, c'est merveilleux ce qu'on va lire. Regardez bien, dans Deutéronome, au chapitre 25, il y a quelque chose de plus qu'elle n'a pas fait. Bien, c'est sûr, elle ne le savait pas. On ne sait pas tout, c'est clair. Regardez bien. On va lire que ce qui nous intéresse. Alors, verset 8. Deutéronome 25, verset, regardez, ça vaut vraiment la peine. Tout ça pour vous dire que la connaissance est progressive, qu'on ne comprend pas tout, mais elle aurait pu faire quelque chose de plus, Ruth. Elle ne l'a pas fait, c'est bien. Deutéronome 25, verset 8, les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier, ce qu'elle a fait, et lui crachera au visage. Bon, il y a des coutumes que ce n'est pas la peine quand vous achetez une maison, par exemple, d'agir de la sorte. Je ne sais pas si vous avez compris ce que ça veut dire. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Vous savez, j'ai fait une émission là, chez Vie et Lumière, et je leur disais, c'est dommage que dans votre mouvement, beaucoup de chrétiens aient plus la peur du diable que la crainte de Dieu. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Et il y a des chrétiens qui sont superstitieux, d'ailleurs ils voient le diable partout. C'est une immense erreur, parce que le diable est une créature, et il ne peut être qu'à un endroit à la fois, même s'il agit par le biais de ses démons. Mais Dieu est omniprésent, il est partout. Et c'est quand même dommage d'en arriver à faire cette comparaison minable. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas à avoir peur de l'ennemi. Si nous obéissons, oui, je ferai tout ce que tu me diras. Seigneur, je ne comprends pas tout, je lis ta parole. Vous croyez que moi je comprends tout, plus je la lis et plus je me rends compte qu'il y a plein de choses que je dois comprendre. Mais mes frères et sœurs, Jésus-Christ vous a rachetés par son sang précieux. Il s'est occupé de tout. Ne t'inquiète pas. Reste tranquille. Jésus s'occupera de ta vie. Vous le croyez, ça? Et vous avez vu comment ça s'est passé? La suite? Comment tout le monde a été restauré, consolé, et Naomi, et tout le monde? Tout le monde a été béni. C'est ce que Dieu veut. Oui, du temps des juges, c'était catastrophique. Dans notre temps, c'est catastrophique. Les églises sont dans une apostasie. J'ose même pas vous dire tout ce qui se passe, tellement vous seriez certainement extrêmement peinés. Mais mes frères et sœurs, soyez tranquilles. Si vous faites ce que Dieu vous demande, Dieu vous conduira. Lave-toi. Si vous êtes perdu, lavez-vous dans la repentance. Si vous êtes sauvé, renouvelez cette vie de sainteté. Oignez-toi, oignez-vous, oignons-nous. Vous n'avez pas envie que le Saint-Esprit nous conduise? Vous rendez compte, cette femme, une Moabite, vouée à la malédiction, elle est devenue l'arrière-grand-mère de David. Enfin, c'est quand même pas mal, moi, je trouve. Et nous aussi, nous sommes les enfants du Seigneur. Ces enfants, toute l'éternité, quand vous verrez Dieu, vous pourrez lui dire, Père, pas papa, Père, vous êtes d'accord? On va se recueillir. J'aimerais que vous répondiez à cette prédication. Vraiment moi aussi je veux répondre. Moi aussi je m'adresse, ma prédication, sois tranquille mon fils. Le Seigneur s'occupera de tout. Vous le croyez vraiment ça? Est-ce que quelqu'un le croit? Sois tranquille. Il ne se donnera pas de repos jusqu'à ce que tu sois racheté. Mon Dieu, quelle grâce, vraiment. Vous savez, il y a des moments de famine. Des fois, on fait des mauvais choix. Ce matin, si vous avez un choix à faire, dites en même temps, Seigneur, je ferai ce que tu me demandes. Je vous le dis, vous ne pouvez pas vous tromper. Elle a écouté sa belle-mère. Elle a écouté Boaz. Par hasard, elle s'est retrouvée dans son champ. Vous voyez, le hasard. Ce matin, je disais à mon épouse, tu te rends compte du hasard, quand on s'est rencontrés dans ce lycée, Je ne sais pas où vous avez rencontré votre femme, si c'est avant votre conversion, parce qu'on était convertis tous les deux. Il n'y a pas de hasard. Dieu règne. Je ferai tout ce que tu m'as dit. Ça aurait pu être un autre titre, voyez. Mais je trouve que lave-toi, oint-toi, donne-toi, c'est vraiment un bon titre aussi. Devant Dieu, ce n'est pas devant les assemblées de Dieu ou devant une dénomination. Non, 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 non. Nous nous levons tous, moi le premier, devant notre Père. Lave-toi, mon frère. Oint-toi. Tu te retrouveras au pied de Boaz. Oui, tu peux être tranquille. C'est Dieu qui défendra tes causes. C'est Dieu qui défendra ta vie. Vous le croyez qu'un avocat, ça sert à ça ? Que le nom du Seigneur soit béni.